Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Monsieur Gérard est annoncé dans quelques minutes, mais à 8h40, nous retrouvons la revue de presse. Et Mademoiselle François est dans la presse ce matin, partir à l'aventure, rendez-vous en terre inconnue.
Et toi, tu fais quoi après le bac? Moi, je vais en Corée du Nord. Bah oui. Ce sont des séjours d'un ou deux mois pour apprendre la langue, s'imprégner du pays, des séjours pourtant fortement déconseillé par le ministère des Affaires étrangères. Et pourtant, nous apprend le Figaro ce matin, depuis 2015, une poignée d'étudiants français partent chaque année en Corée du Nord pour rejoindre les bancs de l'université Kim Il-sung à Pyongyang. Ils y travaillent le coréen entre 3 et 5 heures par jour et sont surveillés en permanence par un dongmu, un étudiant nord-coréen, sorte de chaperon. Ces échanges sont organisés par un ancien professeur de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est le seul à avoir noué des relations académiques entre la France et le régime de Pyongyang. Brian fait partie des premiers étudiants français qui ont participé à un tel séjour. Il y a passé 40 jours en 2015. Il faut, dit-il, avoir une démarche de chercheur, observer et respecter les premiers jours, puis commencer à parler et à explorer. Moi, là-bas, j'ai pu prendre le bus et aller manger une glace tout seul. L'expérience a en revanche tourné au cauchemar pour Louis. Après deux mois passés dans un hôtel glacial qu'il n'était pas autorisé à quitter, il s'est retrouvé dans un état mental proche de la dépression et a dû être rapatrié en France d'urgence. La prochaine promotion s'envolera à la fin de l'été 2017. Une petite formation est dispensée aux élèves avant leur départ. Une fois sur place, ne parlez pas de la dynastie des Kim, ne critiquez rien ni personne et surtout, n'emportez pas d'affiches de propagande. C'est en voulant en emporter une qu'un étudiant américain s'est retrouvé emprisonné pendant 17 mois avant d'être renvoyé aux États-Unis, où il est mystérieusement décédé la semaine dernière. Des étudiants français s'aventurent en Corée du Nord. C'est à lire dans le Figaro ce matin.
Eux aussi s'aventurent en terrain inconnu aujourd'hui. Les députés font leur entrée.
Le bal des députants s'amuse en une le Parisien aujourd'hui en France. Baptême du feu pour les marcheurs en une du Figaro. Des marcheurs salués d'une certaine façon par Jean-Pierre Raffarin, qui annonce donc dans la Nouvelle République ce matin son retrait de la vie politique. Le moment est pertinent, dit l'ancien Premier ministre. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux. Mieux vaut d'abord en connaître un peu les rouages. Alors les Échos proposent une visite guidée pour les néophytes qui vont découvrir le fonctionnement d'une institution aux nombreux cercles d'influence. Le journal explique comment fonctionne la buvette de l'Assemblée, cet endroit où se dénouent les problèmes et où se nouent les compromis. Et puis la salle des quatre colonnes, les quatre cols comme on dit, où il ne s'agit que de voir ou d'être vu. C'est le lieu de rencontre entre les députés et les journalistes, le royaume des bons mots, des coups de gueule et des tacles assassins. Les députés réélus le 18 juin dernier n'étaient pas ceux qui s'y rendaient le plus, note les Échos.
Conseil aussi aux femmes qui entrent à l'Assemblée, dites donc.
Mesdames les députées, titre en une la croix, j'en connais un à qui ça va plaire. 40% des femmes dans l'hémicycle, elles n'ont qu'à bien se tenir, prévient le journal, surtout si elles sont jeunes et sans expérience politique, car c'est ainsi. On pense généralement en France que l'âge et l'expertise sont gages de compétences. Jusqu'à plus ample informé, l'accueil des 224 députés EES ces derniers jours n'a connu aucun accro et avoir les sourires de part et d'autre, il semble même chaleureux. Oubliez donc les brocards phallocrates que connurent en d'autres temps les gradins du Palais Bourbon et c'est tant mieux, s'exclame Florence Couret dans la Croix. Avant de conclure, ni meilleur ni pire que les hommes, les femmes sont attendues partout où les décisions se prennent, partout où la société fait mouvement, parce qu'elles constituent la moitié de l'humanité et non parce qu'elles seraient dotées de qualités dont seraient dépourvus les hommes.
Dans la presse aussi ce matin, le premier couac gouvernement.
Oui, alors là, on est en terrain connu. Hein. Le ministre de l'Agriculture contre le ministre de l'Écologie, les pesticides contre les abeilles. Attention, festival de jeux de mots piquants dans la presse. Matignon règle dardard le conflit en une de 20 minutes. Matignon pris dans le pot de miel pour Libé. Christophe Lucet dans Sud-Ouest pense que ce n'est que le premier dossier sensible pour Nicolas Hulot qui sait que derrière ces braves abeilles se profilent aussi quelques belles couleuvres. Hervé Chabot dans l'Union Lardonnais ironise sur ce nouveau ministre de l'Agriculture déjà bizuté lorsque Stéphane parle à tort et à travers, ça bourdonne dans les ruches de l'exécutif. Mais en fait, il faut lire aussi dans Les Échos un son de cloche un peu différent sous la plume de David Barou qui fait le parallèle avec le nuage de Tchernobyl qui se serait arrêté, vous savez, aux frontières françaises, bien sûr. Si les pesticides sont mauvais, les interdire sur notre territoire ne règle rien, ou presque. Ils finiront par arriver chez nous par les airs ou sous forme de produits transformés puisqu'on les autorise ailleurs. C'est à Bruxelles, en fait, qu'il faut leur barrer la route. Les interdire seulement à Paris, c'est vouloir faire croire que la France est un exemple et que nous avons souvent raison seule quand les autres auraient tort tous ensemble.
On termine avec l'œuf et la poule ?
Oui. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'œuf avait cette forme ? Et surtout, pourquoi la forme de l'œuf variait en fonction de l'oiseau qui le pondait ? Alors, heureusement, il y a toujours des scientifiques pour s'aventurer en terre inconnue et répondre aux questions existentielles qu'on ne se pose pas. C'est donc à lire dans Science et Avenir ce matin et dans Le Figaro. Des chercheurs américains viennent de résoudre ce vieux mystère de la forme de l'œuf. Elle ne dépend ni de la forme du nid, ni d'un régime particulier, mais de la capacité à voler des oiseaux, de leur aérodynamisme. En fait, les oiseaux qui volent beaucoup ont besoin d'un œuf assez gros pour assurer la bonne santé de leur progéniture, tout en gardant un corps assez fin pour pouvoir voler tranquillement. La solution, des œufs plus pointus et plus allongés qui permettent d'augmenter le volume sans augmenter la largeur. Du coup, on résout un autre mystère, écrit Le Figaro. Il est maintenant sûr que l'œuf a précédé la poule. Mais vous savez quoi ? Ça, je pense que c'est une coquille.
C'était la revue de presse d'Adeline François.